Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Culture Monde, votre magazine international que vous retrouvez du lundi au vendredi sur France Culture. On est ensemble jusqu'à midi. Une émission préparée ce matin par Samuel Bernard, mais aussi Tiffaine de Rocchini, Clémence Alezard, Juliette Gadeau, réalisée par Alexandre Fougeron et mise en onde ce matin par Clément Daté. Nous allons donc consacrer notre nouvelle série à l'Asie centrale, cet immense territoire qui va de la mer Caspienne jusqu'au désert du Taklamakan, parfois appelé la mer de la mort dans la région chinoise ouïghour, une immense zone que se partagent essentiellement les cinq pays de l'ancienne URSS, le Kazakhstan, l'Ouzbékistan, le Kyrgyzstan, le Tadjikistan et le Turkménistan. On essaiera de comprendre les évolutions politiques, économiques, sociales, mais aussi culturelles qui traversent ces sociétés. Mais pour commencer, on va se pencher sur les influences extérieures qui pèsent sur ces pays. La Chine, la Russie, le Moyen-Orient, mais aussi l'Europe et les États-Unis, les principaux acteurs internationaux possèdent des liens plus ou moins forts avec ces régions. Que révèle-t-il de la recomposition des relations internationales ? Cela fait longtemps, bien longtemps, que les grandes puissances cherchent à peser dans cette région du monde. Au 19e siècle déjà, lorsque les empires russes et britanniques se disputaient âprement cette Asie centrale, un ventre mou alors encore indépendant. Cette rivalité stratégique était parfois appelée le grand jeu, une expression évoquée notamment dans le fameux livre de Rudyard Kipling, Kim, paru en 1901. Plus d'un siècle plus tard, après la parenthèse soviétique, la rivalité semble se raviver. C'est donc à ce nouveau jeu d'influence qu'on va s'intéresser ce matin, les luttes d'influence ou le nouveau grand jeu. C'est notre sujet ce matin dans Culture Monde.
Cette union est économique et ne touche pas aux questions d'indépendance, de souveraineté politique des États qui prennent part à ce processus d'intégration. Le bénéfice mutuel de ce processus d'intégration est en train de se démontrer par lui-même. La coopération économique de la Russie, du Bélarus et du Kazakhstan progresse. La structure commerciale se développe, la proportion de biens de haute technologie augmente et l'avantage compétitif de nos pays devient plus important dans l'économie mondiale.
Je salue les efforts du président pour la démocratie et les droits de l'homme au Kazakhstan. J'apprécie beaucoup sa gouvernance, ses efforts, et j'envisage de renforcer les liens entre nos deux pays.
Cette route de la soie n'est pas un solo chinois, mais une symphonie de tous les pays le long de cette route. Ce n'est pas pour remplacer les mécanismes existants que cette initiative a été proposée. Bien au contraire, nous voulons promouvoir l'intégration des stratégies de développement des pays qui la constituent, pour qu'ils se complètent mutuellement.
Xi Jinping, président chinois, soutenant son projet de nouvelle route de la soie qui passe par l'Asie centrale et qui devrait également bénéficier à ces pays. L'ancien président américain Barack Obama déclarant son ambition d'approfondir la coopération avec le Kazakhstan. Et puis Vladimir Poutine, aux côtés du président kazakh, à l'occasion de la mise en place de l'Union économique eurasiatique en 2012. Les pays d'Asie centrale occupent une place singulière à plusieurs égards. Mais d'abord, sur le point géographique, bien sûr, ils ont cette particularité d'être totalement enclavés, ce qui les rend dépendants de ses voisins, de leurs voisins directs pour organiser leurs échanges commerciaux. S'ils étaient autrefois intégrés à l'URSS et que cette situation organisait de facto leur mode de rapport à leur environnement régional et international, la fin de l'ère soviétique et l'avènement d'États indépendants a totalement bouleversé ce mode de distribution, permettant ainsi à d'autres acteurs d'envisager des liens nouveaux avec cette région centra-asiatique. Quelles sont les ambitions à la matière pour Moscou, pour Pékin, mais aussi pour les États-Unis, l'Europe, aussi les grandes puissances régionales comme l'Iran ou la Turquie par exemple, et d'ailleurs quels sont les enjeux de cette bataille d'influence? Voilà les premières questions sur lesquelles nous allons nous pencher ce matin dans cette série consacrée à l'Asie centrale. Pour ce faire, nous avons invité un géographe, Julien Torres, bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes chargé de recherche au CNRS, vous êtes un spécialiste de cette région-là, vous êtes au laboratoire de recherche Monde iranien et indien, et puis auteur de cet ouvrage, notamment Asie centrale, des indépendances à la mondialisation, que vous aviez dirigé, qui est paru chez Ellipse. On va d'abord commencer avec l'actualité, Julien Torres, parce que c'est vrai qu'on parle quasiment jamais, disons-le, d'Astana. Or, là, on en parle ce matin d'Astana, et pour cause, puisqu'il va y avoir là des négociations entre le régime syrien et ce qu'il reste de l'opposition syrienne, sous l'égide bien sûr de Moscou, de Téhéran et d'Ankara. On a beaucoup souligné le choc que représentait le fait que ces discussions se passent précisément à Astana et pas à Genève, à New York, à Vienne. Ça en dit long évidemment sur l'impuissance de l'Occident, des États-Unis, de l'Europe, mais aussi plus largement de la communauté internationale incarnée par les institutions onusiennes. C'est l'un des signes qui montre peut-être, on en a discuté plusieurs fois à ce micro, que le monde est en train de basculer vers un nouveau régime. Que vous semble révéler justement le fait que ces négociations, des négociations quand même majeures, qui occupent l'ensemble du monde depuis le début du conflit syrien en 2011, se déroulent à Astana. Est-ce qu'il faut y voir le signe que l'Asie centrale pourrait, à l'avenir, retrouver une place, disons, plus importante dans les relations internationales?
Alors je crois que le premier élément, c'est que ces négociations à Astana révèlent évidemment le rôle fondamental joué par la Russie désormais au Moyen-Orient et révèlent aussi les liens très étroits qui unissent la Russie et le Kazakhstan. Car le Kazakhstan est un allié très proche de son voisin. Deuxièmement, ça révèle aussi, je crois, l'ambition du Kazakhstan d'apparaître comme un État important dans les relations internationales. Et le pays a dirigé l'OSCE, enfin présidé l'OSCE, a dirigé l'organisation de la conférence islamique et a accueilli déjà quelques négociations sur le nucléaire iranien. Donc il y a aussi une volonté de la part...
Et puis sur le conflit ukrainien également.
Sur le conflit ukrainien aussi, il y a une volonté des autorités kazakhstanaises de s'affirmer comme un acteur régional, à défaut d'être un acteur international très important. Et je crois qu'on peut lire dans la localisation, dans le choix d'Astana, ces différents éléments.
Et Nazarbayev, le président donc kazakh, avait parlé de son pays, en tout cas de son ambition. Il avait dit je veux faire de mon pays un hub diplomatique. C'était il y a quelques mois, je crois, dans les colonnes du Monde, si mes souvenirs sont bons. Je parlais tout à l'heure, dans mon introduction, de nouveaux grands jeux, parce que pendant longtemps, on a parlé de grands jeux à propos des rivalités qui se jouent là, dans cet espace-là. Ce nouveau grand jeu, donc, qui viendrait finalement avec la mondialisation, avec bien sûr la fin du monde soviétique. Vous n'avez pas l'air de beaucoup aimer cette expression. Pour quelle raison?
Alors, pour différentes raisons. Je crois que l'expression grand jeu n'est pas forcément très pertinente. Et à bien des égards, je crois qu'utiliser des expressions du 19e siècle pour caractériser la situation du 21e siècle n'est pas très pertinent.
Même si on met nouveau devant.
Même si on met nouveau devant. Pourquoi? Parce que le grand jeu était caractérisé par un affrontement entre deux puissances impériales qui souhaitaient exercer une domination, un contrôle exclusif sur, disons, l'Asie intérieure. Or, il y a deux éléments tout à fait caractéristiques et spécifiques à la situation actuelle. C'est premièrement le fait que les pays d'Asie centrale sont des acteurs. Et on le voit justement avec le rôle que peuvent tenir...
Acteurs voulait dire devenus maîtres de leur propre destin.
Tout à fait. On voit d'une part qu'ils sont acteurs parce qu'ils ont une politique qui est différente et il faut appréhender l'Asie centrale comme une région où on a des États qui mènent des politiques différentes au niveau diplomatique, notamment. Et d'autre part parce que une autre caractéristique de la situation post-soviétique, c'est la diversification des acteurs présents dans la région. Et précisément, vous parliez tout à l'heure des États-Unis, de la Chine, des puissances régionales, l'Iran, la Turquie, du rôle encore joué par la Russie. On a là, en Asie centrale, précisément ces différents grands acteurs étatiques auxquels il faut ajouter des acteurs économiques, des entreprises transnationales intéressées par les ressources du sous-sol notamment. Donc je crois que utiliser cette catégorie de grands jeux ne rend pas bien compte de la situation, si l'on se réfère à la définition qu'on pouvait en donner pour ce qui concerne le 19e siècle.
Bon, donc il faut peut-être pas l'utiliser, en tout cas pas l'utiliser avec cette résonance de ce fameux grand jeu dont on parlait au 19e siècle. Vous parlez de ressources. Ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a une inégalité extrêmement importante entre les différents pays en matière de richesses naturelles. Certains disposent de beaucoup de richesses, je pense notamment au Kazakhstan, qui a des réserves de gaz et de pétrole très importantes, mais aussi des minerais. Et puis il y a des pays qui sont beaucoup plus pauvres, je pense là par exemple au Kyrgyzstan ou au Tadjikistan. Ces disparités font que, bien sûr, tous ces pays ne font pas l'objet de la même attention de la part des puissances extérieures. C'est une évidence, mais il faut le rappeler.
Oui, tout à fait. Et alors, ça tient évidemment aux ressources, ça tient aussi à la superficie de chacun de ces pays, puisque vous avez un pays, un État, le Kazakhstan, qui couvre plus de 2 500 000 km², tandis que le Kyrgyzstan et le Tadjikistan sont des petits États montagneux qui couvrent à peu près 150 000 à 200 000 km².
Oui, en gros, le Kazakhstan, c'est 2/3 du territoire.
Tout à fait. Et donc, c'est un pays qui est grand comme 5 fois la France, et qui a effectivement des ressources naturelles très importantes. Alors, d'une point, vous avez parlé des hydrocarbures. mais aussi des minerais. Et le Kazakhstan est devenu, en 2009, le premier producteur mondial d'uranium. Et quand on sait la dimension stratégique de cette ressource, on comprend tout l'intérêt des puissances internationales pour avoir des relations de partenariat économique et politique avec le Kazakhstan. Ce qui conduit, et ce qu'on a très bien entendu au début de l'émission, certains dirigeants occidentaux à considérer que la situation en termes politiques, en termes démocratiques, dans ce pays, est tout à fait satisfaisante, est même présentée comme un exemple pour le monde post-soviétique, alors que le régime dirigé par Nursultan Nazarbayev est un régime qui est présidentiel, avec des élections certes régulières, mais qui est quand même un régime assez autoritaire.
Oui. Si on poursuit un peu dans ce sens-là, et qu'on se demande quels sont les pays qui, aujourd'hui, bénéficient le plus, tirent le plus de profit de ces richesses, que ce soit le pétrole et le gaz ou même des minerais. Qu'est-ce qu'on va retrouver derrière ? Quand on regarde par exemple la carte de la région, qu'on s'intéresse un peu à la géopolitique des tuyaux et qu'on regarde quels sont les gazoducs et les oléoducs qui traversent ces territoires-là, on voit que essentiellement ce sont des tuyaux qui appartiennent à la Chine ou à la Russie. Est-ce que ça veut dire que ce sont aujourd'hui ces deux pays-là qui pèsent le plus et qui tirent le plus de bénéfices de tout ça ?
Alors, si on s'intéresse au Kazakhstan, je dirais que la première chose, c'est que c'est le Kazakhstan, qui tire profit. Mmh. Mais là, c'est du point de vue kazakhstanais, et le pays a connu un développement économique très important dans les années 2000, très spectaculaire, et d'ailleurs contribue à la popularité des autorités du président Nazarbayev, même s'il y a des difficultés actuellement liées au...
Qui est au pouvoir depuis 91, rappelons-le.
Qui est au pouvoir depuis l'indépendance, oui. Même depuis la fin de la période soviétique. Mmh. Cette croissance économique a d'ailleurs nourri... une classe moyenne qui n'existait pas jusqu'à présent. Et donc, il y a vraiment un soutien, je dirais, à cette politique et à la politique de l'État. Et s'agissant des pays extérieurs, il y a effectivement la Russie qui tire profit et la Chine. La Chine, notamment, a investi dans des entreprises d'hydrocarbures au Kazakhstan et aussi a construit un gazoduc qui relie le Turkménistan, l'Ouzbékistan et le Kazakhstan à la Chine. Il y a désormais aussi un oléoduc qui relie le Kazakhstan à la Chine. Cela dit, il faut regarder aussi, du fait du désenclavement, cette géopolitique des tuyaux, des tubes, à une échelle plus vaste. Et un des principaux projets qui a été développé pour exporter les hydrocarbures de l'Asie centrale et plus largement de la Caspienne, c'est aussi l'oléoduc Bakou-Tbilissi-Ceyhan, qui relie donc l'Azerbaïdjan à la Turquie et qui, lui, a été soutenu par l'administration américaine.
C'est le seul tuyau qui passe à peu près sur ce territoire-là. Hein.
Mais il est important, il est très important, ouais. Et c'est un oléoduc de grande capacité.
Ce jeu d'influence.
Complètement.
Julien Torres, la question qui se pose, c'est dans quelle mesure ces disparités en termes de ressources jouent sur la capacité ou non de prendre ses distances avec la Russie. Pour le dire autrement, est-ce que parce que précisément le Kazakhstan a autant de richesses, est-ce que c'est ce qui explique en grande partie le fait qu'aujourd'hui il est encore très proche de Moscou? Et alors on pourrait prendre l'hypothèse inverse, c'est-à-dire est-ce que lorsque vous avez moins de ressources, vous avez une meilleure capacité d'émancipation vis-à-vis du Kremlin?
Alors, je ne suis pas sûr qu'il soit pertinent d'établir un lien entre le niveau de ressources et les relations avec la Russie. Notamment parce que si on prend l'exemple du Turkménistan, qui dispose de très importantes réserves de gaz, on constate que c'est un État qui a pris ses distances plus que tout autre dans la région avec la Russie, en n'étant pas membre notamment des organisations supra-étatiques qui, peu ou prou, reprennent les frontières de l'URSS. Et c'est un État qui a choisi la neutralité, etc., etc. Or, c'est un État qui dispose de très importantes ressources. Donc, je ne crois pas que ça soit un critère fondamental. En revanche, pour expliquer la proximité de la Russie avec le Kazakhstan, et réciproquement du Kazakhstan avec la Russie, je crois qu'il y a des intérêts bien compris concernant l'intégration régionale. Et le Kazakhstan, notamment par la voix de Nazarbayev, a toujours, depuis l'indépendance, soutenu démarches, les dynamiques d'intégration régionale, et notamment avec la Russie. Il y a des proximités qui sont liées aussi au fait que le nord du Kazakhstan, mais pas uniquement, abrite une importante population russe et plus largement russophone, ce qui peut aussi contribuer à vouloir maintenir des relations étroites avec le grand voisin.
On va revenir à cette question de l'intégration économique, bien sûr, mais d'abord encore un petit mot peut-être sur l'évolution politique de ces pays, parce que on dit souvent que finalement ils ont tous en commun le fait d'être dirigés par des responsables autocrates, notamment des chefs d'État qui sont là depuis les indépendances. On pense bien sûr au Kazakhstan avec, on l'a dit, Nursultan Nazarbayev, pardon, depuis 90, mais aussi Karimov. Alors même si c'est vrai, il est mort maintenant depuis quelques mois, il était là depuis 91, mais quand on regarde les choses d'un peu plus près, on voit qu'il y a eu quand même des trajectoires différentes dans la nature politique de ces régimes. Il y a un certain nombre de pays, je pense au Tadjikistan, je pense au Kyrgyzstan, qui ont connu des changements de président, parfois même des guerres civiles, où les choses ont bougé.
Alors effectivement, je crois qu'on doit distinguer des États qui ont connu un régime très stable, et en particulier donc l'Ouzbékistan, le Kazakhstan et le Turkménistan, où après l'indépendance, ce sont les leaders des partis communistes, donc kazakhstanais, ouzbékistanais et turkménistanais, qui sont restés au pouvoir. Ce qui montre d'ailleurs la grande capacité de ces dirigeants de se construire, de se reconstruire dans un environnement politique complètement différent. Le Tadjikistan a évidemment connu un destin complètement différent, puisqu'il a connu une guerre civile de 1992 à 1997, et qui a conduit à une évolution fondamentale de l'élite politique. Puisque même si le président actuel, qui est en gros en poste depuis 1992, a remporté la guerre contre ceux qui sont qualifiés d'islamistes et de démocrates, avec le soutien des forces néo-communistes, il ne représente pas le même groupe que celui qui dirigeait le pays à l'époque soviétique, qui était le groupe du Nord. Lui, il représente le groupe de Kulab, qui est une région du Sud. Donc là, on a eu un changement d'élite qui est encore très, très, très marquant, et qui structure encore la vie politique aujourd'hui au Tadjikistan. Au Kyrgyzstan, la situation est aussi très différente de ce que l'on peut connaître au Kazakhstan et en Ouzbékistan, parce que le pays a connu plusieurs renversements de président. D'une part, contre le président Akayev, qui était le premier président élu en 2005, puis en 2010, contre le président Bakiyev. Des formes de révolution qui n'ont pas fondamentalement changé le régime, encore que elles se sont accompagnées d'une modification assez fondamentale de la structuration des groupes qui détiennent le pouvoir. Avec aussi, au moins de façon officielle, le fait que le Kyrgyzstan a adopté, à l'issue de la révolution de 2010, un régime qui n'est pas présidentiel. Même si là, il y a un référendum récemment qui vise à changer la constitution.
On y reviendra pour peut-être renforcer tout à l'heure avec notre invité. Je voudrais qu'on parle de la Chine, de la montée en puissance de la présence chinoise. Quand il arrive au pouvoir en mars 2013, Xi Jinping met en place ce fameux programme qui est censé porter la croissance économique des prochaines années de la Chine. C'est les nouvelles routes de la soie, bien sûr.
Notre tronçon de route commence avec le pont qui traverse la rivière Kama, qui est la plus grande rivière russe. Il y a un échangeur derrière nous. Bien sûr, le corridor Baltique Chine occidentale commence en Russie. Il traverse ensuite le Kazakhstan et la Chine. Il réunit trois pays en tout. C'est clair, là où passe la route, se trouve le mouvement, se trouve la vie. C'est une évidence. Économiquement, il y aura probablement plus de camions qui vont suivre cette route. Socialement, ce sera plus facile et plus confortable de l'emprunter. Je suis totalement pour ce projet.
Voilà, donc cette ambition de construire d'immenses axes permettant de faire transiter les marchandises depuis le cœur de la Chine jusqu'à l'Europe, en passant évidemment par l'Asie centrale, qui est dans cette affaire-là absolument décisive, centrale géographiquement bien sûr. Est-ce que ces États, Julien Torres, ont vraiment besoin de l'implication de la Chine pour développer ces infrastructures, à la fois sur le plan financier, on peut penser aussi sur la question des compétences connues et reconnues de la Chine en la matière, qui a l'habitude de faire ça, ou est-ce que finalement, l'apport de la Chine vient juste en complément de politiques de développement national qui sont déjà bel et bien en place?
Alors concernant la politique d'infrastructure, je crois qu'il est très important de l'appréhender à différentes échelles. Et le vocable, l'expression « route de la soie » est évidemment une dimension internationale, à une échelle transcontinentale, puisque cette expression réfère aux échanges entre l'Asie orientale et le bassin méditerranéen. À cette échelle, les États d'Asie centrale ne peuvent pas agir. En revanche, à l'échelle locale, ils conduisent une politique d'aménagement du territoire qui a deux volets principaux, je dirais, l'unification du territoire national, parce qu'ils ont hérité de configurations territoriales où les États, les espaces nationaux étaient écartelés, et donc ils construisent des voies de communication, des axes de transport entre leurs différentes régions.
Avec des financements propres ?
Avec quelquefois des financements propres, mais souvent des financements internationaux. Et d'autre part, ils essaient de lutter, de pallier les conséquences négatives du désenclavement en établissant de nouvelles routes, de nouvelles voies ferrées, on a parlé des tubes déjà, vers les pays voisins, et notamment vers la Chine évidemment. Et là, en l'occurrence, les autorités chinoises, depuis 2013, mettent sur la table à peu près 100 milliards de dollars pour développer les infrastructures de transport, et c'est évidemment considérable. Et du coup, il y a ces deux logiques, en fait, nationales et internationales, qui se combinent. Et évidemment, pour obtenir des financements internationaux, les autorités centra-asiatiques présentent tous les projets qui peuvent être, en fait, essentiellement de portée nationale, comme des projets internationaux, de sorte que une nouvelle route ou une nouvelle voie ferrée entre deux régions kazakhstanaises ou entre deux régions de l'Ouzbékistan est présentée comme un nouveau maillon de la route de la soie et comme, donc, du coup, une infrastructure essentielle aux relations internationales, aux échanges mondiaux.
Alors, parmi les projets internationaux, il y a évidemment l'Organisation de coopération de Shanghai dont il faut parler, une organisation intergouvernementale qui a été créée il y a une quinzaine d'années, en 2001, qui regroupe la Russie, la Chine, le Kazakhstan, le Kyrgyzstan, le Tadjikistan et l'Ouzbékistan. Alors, il y a d'autres pays qui sont venus depuis, qui sont aussi des observateurs. Donc, cette Organisation de coopération de Shanghai...
La situation de la sécurité internationale a changé en profondeur avec le rapprochement des intérêts nationaux des États membres. L'OSCE fait face à diverses menaces de sécurité pour maintenir la stabilité et chercher une voie commune de développement. J'ai été informé que la réunion entre les chefs généraux s'était très bien passée et qu'un nombre de consensus clés avait été passé grâce aux échanges bilatéraux et multilatéraux. Je souhaite présenter mes félicitations pour ce résultat positif.
Les perspectives favorables pour l'intensification de la coopération transrégionale s'ouvrent suite à une autre décision prise lors du sommet de l'Organisation de coopération de Shanghai. Je me réfère à la décision de lancer le processus de l'intégration de l'Inde et du Pakistan dans cette organisation. Il va sans dire qu'il est très important et mutuellement avantageux d'établir des contacts étroits avec les régions de deux des plus grands pays asiatiques.
Voilà, on entendait d'abord Xi Jinping qui recevait à Beijing, à Pékin, les chefs militaires de l'Organisation de coopération de Shanghai en 2014, et puis ensuite Sergueï Lavrov, le ministre des Affaires étrangères russe, qui en 2015, lui, se réjouissait de la coopération dans le cadre de cette organisation de Shanghai. Question extrêmement générale, mais qu'on va détailler au fur et à mesure, Julien Torres. Quels étaient les objectifs politiques et géopolitiques de cette entité, et quel bilan est-ce qu'on peut en faire aujourd'hui ?
Alors, le premier élément, c'est que c'est effectivement une organisation qui a, au moins dans son discours, une ambition géopolitique importante qui est celle de contribuer à l'émergence d'un monde multipolaire et donc à la constitution d'une entité régionale qui pourrait faire concurrence à d'autres organisations, d'autres formes d'intégration régionale, et ce, à l'échelle mondiale. Ça, c'est le premier point, donc, qui est tout à fait fondamental. La deuxième élément, c'est que l'Organisation de coopération de Shanghai a un volet sécuritaire très important, notamment pour les autorités chinoises, mais pas uniquement, et qui est lié à la volonté de l'ensemble des pays centra-asiatiques, Russie et Chine, de lutter contre le terrorisme, contre les formes de séparatisme, etc.
Et là, il faut évidemment préciser la question ouïghour.
Il y a la question ouïghour qui est fondamentale.
Les ouïghours qui sont cette population turcophone, musulmane, qu'on trouve dans le nord-ouest de la Chine et qui, évidemment, touche tous ces pays d'Asie centrale.
Et tout à fait. Et qui...
Donc l'objectif, c'est d'éviter que ça devienne des bases arrières pour ces mouvements.
Enfin, non, enfin l'objectif, une des volontés, c'est d'éviter que en Asie centrale se développent des mouvements indépendantistes ouïghours. Et les autorités des pays centra-asiatiques, d'ailleurs, contrôlent les communautés ouïghours, communautés qui sont arrivées en deux vagues, en gros, dans les pays d'Asie centrale à la fin du XIXe siècle et puis au cours du XXe siècle.
Alors, et... on va. Oui, vous vouliez poursuivre.
Je veux juste dire que effectivement. Du coup, il y a entre les pays membres de l'Organisation de coopération de Shanghai des échanges très importants sur le plan sécuritaire, alors des échanges de données, mais aussi un partage de normes juridiques, etc. etc. Donc il y a une forme d'intégration qui est ici très forte, beaucoup plus pour l'instant que des faits économiques.
Alors ça, c'est pour ce qui est des intérêts de la Chine, on les entend bien. On va regarder maintenant de l'autre côté, pour ces pays d'Asie centrale et notamment pour le Kyrgyzstan, quels sont les intérêts que peut trouver par exemple ce pays. Et on va justement se tourner directement vers Bishkek, qui est la capitale du Kyrgyzstan, pour trouver Yıldız Nisharapova. Bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Il y aura évidemment un tout petit décalage dans nos échanges puisque vous êtes relativement loin. Merci d'être avec nous en tout cas. Vous êtes enseignante à l'Université américaine de l'Asie centrale et spécialiste des relations internationales et de cette politique extérieure du Kyrgyzstan. Vous avez notamment écrit un article dont je vais lire le titre, Appréciation et intérêt kirghize sur et dans l'Organisation de coopération de Shanghai. Vous rappelez en introduction le fait que les ressources sont inégalement réparties. On l'a déjà un petit peu dit dans les pays de l'Asie centrale et en la matière, le Kyrgyzstan, disons, n'est pas le mieux lotis, qui nous invite à nous demander finalement ce que sont les motivations réelles de Bishkek. Parce que le Kyrgyzstan, c'est l'un des 5 pays fondateurs de l'Organisation de coopération de Shanghai. Très concrètement, quels sont les intérêts des Kyrgyz dans cette Organisation de coopération de Shanghai? En quoi sert-elle ses intérêts?
Bonjour encore une fois, merci de vos questions. Alors, les intérêts du Kyrgyzstan, c'est première... C'est les questions de sécurité. C'est un très petit pays de l'Asie centrale qui n'est pas capable de garantir ou maintenir sa sécurité tout seul. C'est pour ça qu'on a besoin de coopérer avec nos voisins. Et bien sûr, surtout avec la Russie et la Chine. Comme vous le savez, les pays de l'Asie centrale, ils ont pas mal de problèmes avec la sécurité, comme le terrorisme, l'extrémisme religieux. C'est pour ça, c'est la première motivation, c'est garantir la sécurité du pays et de la région. Alors, la seconde motivation, c'est le développement économique du pays. Alors, on ne possède pas des ressources énergétiques du Kyrgyzstan, oui. C'est pour ça qu'on a besoin de coopération avec les grands et les petits pays de la région.
D'accord, donc il y a des questions liées à la sécurité, des questions liées à l'économie, on comprend. Et puis je crois qu'il y a une troisième motivation qui était peut-être la première de toutes quand on regarde les choses de près. C'était la question des différents territoriaux avec Pékin.
Oui, c'était Shanghai 5, oui, c'était en 1996. C'était pas encore la coopération de Shanghai, l'organisation de coopération de Shanghai, mais c'était en 5 de Shanghai. Et c'était ici, alors c'est la question territoriale et puis la confiance entre les voisins. C'est la confiance militaire. Et confiance entre les voisins. Donc... Et après, en 2001, c'était l'OCSE a été créé, mais c'était la question de sécurité était un premier plan.
Et oui, parce qu'évidemment, en 2001, il y a cette intervention occidentale en Afghanistan, la fin du régime taliban, et qui fait que tout ça, eh bien, on a des forces terroristes islamistes qui se réfugient dans les pays environnants. Alors, on a beaucoup parlé du Pakistan, mais ça concernait aussi des zones comme l'Ouzbékistan, le Tadjikistan, ou encore justement le Kyrgyzstan, là où vous vous trouvez en ce moment, puisque vous êtes en direct avec nous depuis Bishkek. Dans quelle mesure est-ce qu'à ce moment-là, justement, le Kyrgyzstan est déstabilisé peut-être par ses arrivées, et en quoi l'organisation de coopération de Shanghai a permis justement de lutter efficacement contre l'émergence de ces, disons, nouvelles cellules terroristes, en tout cas potentiellement porteuses de troubles sécuritaires, ils disent Nisharapova.
L'Asie centrale, comme nous sommes très proches à Afghanistan, le problème de sécurité dans la région, et particulièrement Kyrgyzstan, en 1989, a été attaqué le groupe de terroristes internationaux, ils intervenaient sur la région de Batken. Alors, c'était un problème pour le Kyrgyzstan. Et à partir de ce moment-là, on a compris que tout seul, on ne peut pas garantir la sécurité. Et c'est pour ça qu'on doit coopérer avec les grands pays de la région.
Et quel type d'aide est-ce que justement le Kyrgyzstan reçoit? C'est quoi? C'est des aides matérielles, financières? Qu'est-ce qu'on a concrètement?
Alors concrètement, de l'OCS, il n'y a pas d'aide. Mais chaque année, ils organisent des exercices militaires avec la participation de tous les pays membres de l'OCS dans le territoire de chaque pays membre, chaque année. Mais on est aussi membre dans l'autre organisation, c'est l'organisation du traité de sécurité collective avec la Russie. Il n'y a pas de Chine dedans, mais avec la Russie, on participe dans cette organisation.
Vous restez encore un petit peu avec nous, s'il vous plaît, Yildiz Nicharapova. Je vais me tourner vers Julien Torres pour peut-être continuer un peu sur cette question sécuritaire. Parce que j'ai parlé de l'Afghanistan, de l'intervention occidentale, notamment de l'intervention américaine. C'est un moment où les États-Unis vont avoir besoin de mettre dans cette région-là un certain nombre de dispositifs, d'hommes, de matériel. Et c'est le cas notamment du côté du Kyrgyzstan. Et puis quelques années après, il va y avoir un retrait des troupes américaines. Écoutez.
Мы неоднократно с американскими партнерами.
Plus d'une fois, nous avons parlé avec nos partenaires américains au sujet de la compensation économique pour le Kyrgyzstan en échange de la présence de la base aérienne américaine. Mais malheureusement, nous n'avons pas trouvé de terrain d'entente. Nous avons parlé de la nécessité de revoir les termes de cet accord qui ne nous satisfait pas complètement. Mais nous n'avons pas été entendus par les États-Unis. Les problèmes qui se sont accumulés dans les relations entre les États-Unis et le Kyrgyzstan ont suscité des réactions négatives dans la société et les gens ont, à juste titre, posé la question des raisons justifiant d'avoir cette base sur le territoire du Kyrgyzstan. Aujourd'hui, le gouvernement du Kyrgyzstan a pris la décision de fermer la base militaire américaine sur notre territoire.
Voilà, c'est donc Kurmanbek Bakiev, président kirghiz, qui annonçait auprès de Dmitri Medvedev, qui était assis à côté de lui, la fermeture de cette base aérienne de Manas utilisée par les Américains. Alors, pour la petite histoire, on est là en février 2009, il annonce la non-fermeture et en réalité, quelques jours plus tard, on va quand même renouveler la base et donc les Américains vont pouvoir rester, mais finiront par quitter la base en 2014. Voilà pour être absolument précis. Vous dites, Julien Torres, à propos de ce départ des Occidentaux et en particulier des Américains, que c'est un véritable tournant géopolitique. Pour quelles raisons et quelles conséquences concrètement pour ces États-là?
Alors, je crois effectivement que le départ des pays occidentaux des bases militaires qu'ils occupaient en Asie centrale, en Ouzbékistan, au Tadjikistan, au Kyrgyzstan, depuis le début des années 2000, constitue effectivement un tournant parce que pour les pays occidentaux, la région est beaucoup moins intéressante, que la focale s'est déplacée vers d'autres régions du monde. Si au début des années 2000, au moment de l'intervention de l'OTAN en Afghanistan après le 11 septembre, l'Asie centrale était véritablement une priorité, aujourd'hui, c'est clairement une région secondaire, une région dans laquelle les pays occidentaux n'investissent pas autant, au moins en termes politiques. Ça ne veut pas dire que des entreprises occidentales ne sont pas présentes dans la région. Mais en termes strictement politiques, très clairement, ça accompagne une forme de retrait un décalage des centres d'intérêt.
Et est-ce que ça s'est accompagné d'un rapprochement avec Moscou? Alors, pour ces pays d'Asie centrale.
Est-ce que ça s'est accompagné d'un rapprochement avec Moscou? Je dirais que les relations avec la Russie étaient étroites.
Déjà bien établi. Oui.
Pour la plupart d'entre eux. Cela dit, lorsque, en 2005, la base militaire occupée par les États-Unis, utilisée par les États-Unis en Ouzbékistan, est évacuée vers le Kyrgyzstan, c'est à un moment où l'Ouzbékistan a réprimé une révolte à Andijan et face à cette situation qui a été dénoncée par les Occidentaux, bah, s'est tournée davantage vers la Russie. Donc il y a souvent un jeu de balancement comme ça, un balancier entre différents intérêts. Cela dit, un des pays qui voit son influence grandir, y compris en termes politiques, et notamment au Tadjikistan, c'est incontestablement la Chine. Et on parlait tout à l'heure du programme de route de la soie. Il y a, je crois, de la part des autorités chinoises, la volonté de concrétiser du point de vue politique leur influence économique.
Encore un tout petit mot, et puis ensuite on va retrouver Yildiz Nisharapova, qui est toujours avec nous par téléphone. Mais on disait, la présence occidentale, elle s'est décidée suite aux attentats suite au 11 septembre 2001. Elle s'est prolongée pendant quasiment une quinzaine d'années. Et donc tout ça, finalement, est parti de l'Afghanistan. Est-ce que l'Afghanistan, justement, pourrait constituer pour ces pays d'Asie centrale, dont je rappelais tout à l'heure en introduction qu'ils avaient cette spécificité, qu'ils sont totalement enclavés, est-ce que l'Afghanistan, ça serait une porte de sortie sur l'extérieur, parce que ça, il a plusieurs avantages, ce pays, c'est que, bon, tout est à faire, que par ailleurs, c'est pas un pays qui risque d'être un acteur, disons, trop dérangeant, trop ingérant, d'une certaine manière, peut-être beaucoup moins que la Chine, en tout cas moins que la Chine. Ça peut être une porte de sortie ?
Une porte de sortie pour l'Asie centrale.
Les auditeurs ne voient pas votre visage, mais vous n'y croyez absolument pas.
Non, j'y crois pas trop. En revanche, une partie du commerce qui est opéré entre le Pakistan et le Tadjikistan passe par l'Afghanistan de façon incontestable. Pour les autres pays, et notamment pour l'Ouzbékistan, l'Afghanistan peut être un pays qui est vu comme un marché. En revanche, comme une véritable porte de sortie vers le vaste monde, c'est très peu probable. Il y a simplement, d'ailleurs, pour le Tadjikistan, en ce moment, un projet soutenu d'ailleurs par la Chine qui vise à créer une voie ferrée qui permettrait au Tadjikistan d'éviter de transiter par le sud de l'Ouzbékistan via le nord de l'Afghanistan pour arriver...
C'est d'ailleurs un vieux projet qu'on a ressorti des cartons qui existent depuis des décennies, pour pas dire plus.
Et pour aboutir à l'Iran. Mais fondamentalement, les principaux axes de désenclavement de l'Asie centrale sont vers la Russie, vers la Chine et vers le sud, vers l'Iran principalement.
Yildiz Nisharapova, on vous retrouve, vous êtes toujours en direct avec nous depuis Bishkek, cette capitale du Kyrgyzstan. En 2006, le président kirghiz avait souligné l'importance de cette organisation de coopération de Shanghai dans le développement économique de son pays. Je voudrais qu'on parle un instant d'économie. La République kirghize, avait-il dit, prend position pour que la coopération économique soit au fil du temps un facteur de cimentation pour le renforcement de l'organisation. Finalement, quel bilan est-ce qu'on peut faire de cette organisation de coopération de Shanghai en matière de développement économique? Est-ce que ça a été bénéfique pour Bishkek?
Alors, sur la question économique, pendant la réunion des premiers ministres du gouvernement des pays membres en 2001 et 2002, les pays membres de l'OCDE ont accepté le programme du développement économique des pays de l'OCDE. Alors, il y avait le mécanisme de développement, de réalisation de ce programme, mais il n'y avait jamais une source de financement de ce projet. Alors, la Russie, la Chine ont déclaré plusieurs fois qu'il est très nécessaire de créer une banque ou une fondation de l'OCDE pour financer les projets communs. Mais malheureusement, jusqu'à maintenant, alors depuis 2006, ce projet n'était pas réalisé. Même la Chine a déclaré qu'elle est prête à investir 8 milliards de dollars pour ce banque de l'OCS, alors avec le budget total de 10 milliards de dollars. Mais malheureusement, ça a été toujours bloqué par certains pays. Première, c'est la Russie. Peut-être qu'elle n'était pas très intéressée que la Chine domine sur les questions économiques. Et deuxièmement, c'est peut-être les pays d'Asie centrale confrontés à une menace de la part de la Chine.
Tout dernier mot, ils disent Nisharapova, peut-être un mot d'actualité kirghize. Parce que récemment, en décembre dernier, votre pays s'est exprimé dans le cadre d'un référendum pour procéder à des réformes constitutionnelles. C'est un référendum qui a été entériné à plus de 80%. Beaucoup au Kyrgyzstan craignent que le président cherche à se maintenir en briguant le poste de Premier ministre qu'il cherche à renforcer. En gros, un scénario un peu à la Poutine quand il avait échangé son poste avec Medvedev. C'est la sixième fois que le pays change de constitution depuis son indépendance. On se souvient, il y a plus de 10 ans, en 2005, cette révolte populaire qu'on avait baptisée la révolution des tulipes, qui avait été d'ailleurs encouragée, soutenue par les États-Unis. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui de la démocratie kirghize? Alors évidemment, tout n'est pas parfait, mais on dit parfois que ce Kyrgyzstan est peut-être celui qui a le plus avancé justement sur le chemin de la démocratie dans cette région centra-asiatique. C'est votre avis, Yeldizhny Sharapova?
Alors, oui, il y a, c'est pas seulement mon opinion, mais il y a l'opinion de beaucoup de gens, que le Kyrgyzstan est un pays plus démocratique dans cette région de l'Asie centrale. On a maintenant 4e président, après Akayev, Baki, Fotumbaeva et maintenant c'est Atambaev. L'année prochaine, on va avoir une élection présidentielle, mais, en 2010, il y avait le moratoire pour le changement de constitution. Mais malheureusement, cette année, on a encore changé cette constitution. Alors, il y avait des changements, mais sur le plan intérieur du pays. Mais pour l'instant, on ne croit pas que Atambaev peut rester comme Premier ministre parce qu'il a promis plusieurs fois sur la télé et partout qu'il ne peut pas rester, qu'il ne va pas rester ni comme le Premier ministre ni le speaker de Parlement.
Et vous le croyez et vous pensez qu'il est sincère? Oui.
Oui, on est très naïf, la population kirghize, malheureusement.
Ah non, j'ai pas dit ça.
Sûr, on croit.
Non, mais j'ai pas dit que vous étiez naïf. Je demande juste votre avis. Je ne porte aucun jugement.
Oui, on croit. Espère que ça sera comme ça.
Eh ben, on espère que vous avez raison. On espère également. En tout cas, un grand merci, Yeldizhny Sharapova, d'avoir été avec nous depuis Bishkek, capitale du Kyrgyzstan, de vous être exprimé en français merveilleusement. Je vous remercie infiniment et je rappelle que vous êtes enseignante à l'Université américaine d'Asie centrale. Un mot, Julien Torres, pour conclure cette page kirghize sur l'évolution politique de ce pays qui, on l'entend, elle nous le dit, va plutôt dans le bon sens. En tout cas, c'est son opinion, c'est son souhait.
Alors, je pense que il y a différentes façons de voir l'évolution politique du Kyrgyzstan et notamment en analysant un peu les réformes structurelles décidé par le président Akayev et prolongé d'ailleurs, et qui ont vu en fait le pays mener une politique très libérale avec une désétatisation de l'économie et aussi avec des conséquences qui ont été plus, je dirais, dommageables, puisque le pays a subi plusieurs épisodes de violence politique, et en particulier en 2010 des affrontements interethniques entre Kyrgyzes et Ouzbeks, et en l'occurrence dans le sud du pays, où les Ouzbeks ont été largement victimes de pogroms, etc. Et donc, je pense qu'il faut être assez prudent dans la façon de qualifier les évolutions politiques des différents pays, et notamment de celui-ci. Le fait qu'il y ait une multiplication des ONG, une implication de nombreuses organisations internationales dans le pays, ne garantit pas un système démocratique. Et en l'occurrence, mon approche, là, mon analyse n'est pas de dire c'est mieux ou moins bien ailleurs ou ici ou là. Il dit c'est simplement de montrer que dans ce pays aussi, il y a de gros problèmes politiques en termes de représentation des différentes populations et en termes d'appréhension du consensus social.
On va poursuivre sur cette émission consacrée aux luttes d'influence dans cette région centra-asiatique. On va regarder ce que l'Union européenne fait en la matière. Un certain nombre de chefs d'État se sont rendus ces dernières années dans la région, et notamment notre chef d'État, François Hollande, qui était à Astana en décembre 2014.
Certes, il y a eu ensuite le partenariat stratégique en 2008, mais il y a eu surtout, grâce à vous, un développement considérable des investissements français au Kazakhstan. Dans de nombreux domaines, énergétique, c'était au départ ce qui paraissait le plus évident, et Total a joué un rôle majeur, mais également le domaine des transports, des technologies nouvelles, domaine de la ville durable. Et puis, au cours de cette visite, j'ai bien sûr vu le président qui m'a confirmé une fois encore que le Kazakhstan voulait être au cœur, finalement, de l'Asie et de l'Europe, par sa position géographique, par sa position politique. Et en fait, il ne faudrait surtout pas freiner ce mouvement. C'est important pour la France qu'on ait un partenaire qui puisse être capable de pouvoir commercer et avec les uns et avec les autres. On a besoin de pays qui sont charnières, le Kazakhstan en est un.
Voilà, donc François Hollande qui défend ce besoin d'accroître cette coopération avec le Kazakhstan lors de la réception de la communauté française à l'ambassade de France à Astana, c'était en décembre 2014. Bonjour Mathieu Bouleg.
Bonjour.
Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes un spécialiste de cet espace eurasien. Vous travaillez pour ce think tank CAP, Centre d'analyse de la politique étrangère. Vous avez notamment écrit un article intitulé « L'Union européenne en Asie centrale entre valeurs, intérêts et sécurité ». Vous y expliquez que l'Union européenne a une présence relativement modeste en Asie centrale. L'essentiel de la présence européenne, elle s'effectue sur la base d'échanges bilatéraux et c'est exactement ce qu'on entendait là avec François Hollande. L'Union en tant que telle a un peu de mal, disons, à s'imposer, ce qui ne veut pas dire que les États membres, eux, se désintéressent. Mais pourquoi est-ce que l'Europe se contente finalement de relations d'État à État sans envisager réellement une approche multilatérale renforcée ? Et concrètement, même si cette présence est modeste, il y a quand même un plan stratégique européen qui a été adopté en 2007, donc avec une approche multilatérale. Même si elle est modeste, elle existe. Elle ressemble à quoi, Mathieu Bouleg ?
Alors, je pense qu'effectivement, vous avez bien résumé le fait que la dernière stratégie de l'Union européenne remonte à 2007, c'est-à-dire qu'elle a 10 ans et qu'elle renvoie finalement une image de coopération multilatérale entre les acteurs européens d'un côté et les pays d'Asie centrale de l'autre, qui a 10 ans de décalage avec ce qu'est devenu l'Union européenne et les évolutions, la prise en compte des évolutions économiques, sociales et politiques de ces États centra-asiatiques. Aujourd'hui, cette stratégie donc date de 2007, a été mise à jour 3 fois de suite. On attend une refonte totale de cette stratégie peut-être pour 2020 qui pourrait éventuellement pousser l'Union européenne à s'investir de manière plus large au niveau multilatéral. Alors pourquoi une aide bilatérale plus qu'une aide multilatérale ? Je pense qu'il y a deux visions en fait. Il y a des limites qui sont propres à l'Union européenne dans le sens où la politique centra-asiatique se fait effectivement par la politique des États, avec des États qui ont chacun une vision de la stratégie et de la façon dont il faut engager les pays d'Asie centrale. Certains ont une vision extrêmement tournée sur le modèle économique, notamment la France, l'Allemagne, donc très utilitariste, voire clientéliste vis-à-vis d'Asie centrale, alors que d'autres États, comme par exemple le Royaume-Uni ou les États du nord de l'Europe, ont une vision beaucoup plus normative, plus fondée sur une approche axée sur le multilatéralisme et la coopération.
Le Kazakhstan, Mathieu Bouleg, pardon, je voudrais, excusez-moi de vous couper, mais je voudrais qu'on évoque le cas particulier du Kazakhstan, parce que c'est le seul pays de la région qui bénéficie d'un accord de partenariat renforcé, ce qu'on appelle les accords de partenariat et de coopération renforcée. Il a été signé en décembre 2015, après plusieurs années de négociations. Pourquoi cette spécificité? Et là encore, concrètement, qu'est-ce que cet accord a modifié dans les échanges entre le Kazakhstan et l'Union européenne ? Mathieu Bouleg.
Au final, pas grand-chose au niveau de l'Union européenne, puisque encore une fois, c'est au niveau des États. Et le président Hollande l'a lui-même rappelé dans son discours, en décembre 2014, le Kazakhstan est considéré comme un pivot, comme disons une porte d'entrée facilitée, car c'était le pays le plus stable politiquement, le plus ouvert pour les investissements et surtout économiquement une puissance régionale dans lequel les États européens estiment devoir investir en priorité et ne serait-ce que par sa manne énergétique au niveau des hydrocarbures et du gaz, dans lequel les Unions européennes ont des intérêts effectivement privilégiés.
Alors Mathieu Bouleg, on le sait ça, le Kazakhstan vend à l'Union européenne, en tout cas aux pays membres, et même je crois via l'Union européenne, du gaz et du pétrole. Qu'est-ce que nous leur vendons en retour ? Mathieu Bouleg.
En retour, la France et les États de l'Union européenne investissent au niveau des grandes entreprises principalement. En France, par exemple, on a un certain nombre d'entreprises qui sont très présentes dans le secteur du lait, notamment, c'est très peu connu. Lactalis est un champion du lait kazakh, également Total avec le gisement de Kashagan, un énorme gisement d'hydrocarbures sur la mer Caspienne, dans le secteur kazakh. Donc il y a tout un certain nombre de technologies, de subsides technologiques et d'aide au développement que les pays de l'Union européenne vont fournir au Kazakhstan. Donc,
attendez, on leur vend pas seulement des yaourts, Mathieu Bouleg, on leur vend aussi beaucoup d'armes. On se souvient bien sûr notamment de la France avec cet énorme contrat d'hélicoptère pour lequel d'ailleurs on a une enquête qui a été ouverte en France autour de soupçons de corruption. C'est pas seulement du lait.
Effectivement, il n'y a pas de yaourt. Merci.
Mathieu Bouleg.
Oui, ben je n'étant pas expert militaire ni technique, je peux difficilement commenter sur les rapports bilatéraux entre la France et le Kazakhstan sur le domaine de l'armement.
Julien Torres, c'est vrai que c'est un aspect très important. On leur vend des armes. C'est d'ailleurs en partie pour ça qu'on se déplace. Disons-le, Julien Torres.
Alors, sincèrement, je ne sais pas quel est le niveau des exportations d'armes françaises, mais je crois que ça fait partie effectivement des relations.
Un hélicoptère français, c'était des milliards. Hein.
Non, il est important, mais il y a aussi d'autres éléments. Enfin, et je pense que la présence d'Areva au Kazakhstan dans la production d'uranium est au moins aussi importante pour le pays, pour les autorités françaises, de même que le fait que Alstom ait aussi développé des partenariats avec le Kazakhstan. Après le fait que Thomson, Thales travaillent depuis longtemps, par exemple, avec différents pays d'Asie centrale, c'est un fait, c'est incontestable.
Et puis il y a d'autres programmes, Mathieu Bouleg, on va peut-être finir avec ce point-là, parce que l'Union européenne participe, je crois, à des programmes de soutien dans le domaine sécuritaire. Je pense au Border Management Programme in Central Asia, je pense au Central Asia Drug Action Programme. Là, on a aussi des choses dans le domaine sécuritaire, Mathieu Bouleg.
Oui, tout à fait. C'est effectivement une des niches de compétences en matière de sécurité humaine dans lequel l'Union européenne est très impliquée en Asie centrale. Et les pays d'Asie centrale sont relativement bien réceptifs à ces projets, notamment en matière de gouvernance aux frontières et de lutte contre le terrorisme. Et ces deux programmes sont souvent présentés comme des fleurons de l'action de l'Union européenne en Asie centrale.
Efficace
jusqu'à ce qu'il ne le soit plus, puisqu'encore une fois, il y a une logique très utilitariste et clientéliste de ces États centra-asiatiques qui y voient une façon finalement de faire une politique de balancier vis-à-vis de ses grands voisins comme la Russie et la Chine, dans des niches de compétences qui ne contredisent pas la politique étrangère de la Russie ou de la Chine.
Merci beaucoup Mathieu Bouleg d'avoir été avec nous ce matin. On arrive au terme de cette émission. Un grand merci à vous. Avuzum bu qurumad mı beni sarıt mecim patencim mı vakti tabi tu avuzum mehence teyice Mede çare baca bu meçare rap çare nafo mit kese kucere nadire hit kıbret Meken bafura çevisi Et un grand merci à vous Julien Torres de nous avoir accompagné, d'avoir ouvert cette série sur l'Asie centrale, cette terre du milieu. Je rappelle que vous êtes géographe, chargé de recherche au CNRS. J'indique pour nos auditeurs Asie centrale des indépendances à la mondialisation qui était paru chez Ellipse. Vous avez également participé à ce numéro de questions internationales sur l'Asie centrale, grand jeu ou périphérie, hein. Vous avez vu, il parle aussi du grand jeu, pas du nouveau grand jeu. En tout cas, merci beaucoup d'avoir ouvert cette série. On mettra toutes les références sur le site de Culture Monde. Merci beaucoup. Tout de suite, presque 11h53 minutes, comme chaque jour dans Culture Monde, on retrouve le monde des idées.
Le tour du monde des idées, Brice Couturier.
Bonjour Brice Couturier.
Bonjour Florian.
Alors ça y est, cette fois Donald Trump est installé à la Maison Blanche. On va enfin savoir dans quelle direction il entraîne la première puissance économique et militaire de notre époque. Vous avez consulté Revue Think Tank pour tenter de comprendre ce dont est porteuse la rupture que représente Trump. Alors quelle est l'ambiance aux États-Unis en ce jour 1 du Trumpisme?
Vous savez Florian, la tradition politique américaine veut qu'au lendemain d'une investiture présidentielle, la nation se rassemble autour du nouvel élu. Le moins que l'on puisse dire, c'est que tel n'est pas le cas depuis que Donald Trump a déménagé à la Maison Blanche. Dès le lendemain de son investiture, des centaines de milliers de personnes ont défilé dans les rues de la plupart des grandes villes américaines pour protester contre un président dans lequel elles ne se reconnaissent pas. La principale de ces marches, qui a eu lieu entre le Capitole et la Maison Blanche, a rassemblé 500 000 personnes à Washington. Bill de Blasio, le maire de New York, estime que le nombre de marcheurs dans sa propre ville a atteint les 400 000 et toujours selon la mairie, ils étaient 175 000 à Boston. À Chicago, les protestataires se sont retrouvés si nombreux, 250 000, que les organisatrices ont décidé d'annuler la marche pour éviter tout incident. Elle a eu lieu quand même. Alors Donald Trump a été élu 45e président des États-Unis à la suite d'une campagne électorale d'une rare violence verbale. Ce leader populiste de l'ère du tweet provoque sans cesse ses adversaires. Il a privilégié l'antagonisme sur la recherche du consensus. Il a délibérément misé sur la division de l'Amérique en deux camps, le sien et tous les autres. C'est ce qu'il a porté au pouvoir. Il est en effet parvenu à incarner le ressentiment d'une très grande partie des Américains envers ce qu'ils appellent le système. Washington et son gros gouvernement, les élites de la côte Est, financières ou médiatiques, celles de la côte Ouest, l'entertainment et les technologies du futur. Mais il ne faut pas s'étonner que cette conflictualisation délibérée de l'espace politique produise en retour une contestation vigoureuse. Alors même qu'il entend faire subir à son pays un vigoureux changement de cap, j'en parlerai toute la semaine, cette situation intérieure va rendre les États-Unis difficiles à gouverner. Car l'Amérique n'est pas une démocrature comme le sont la Russie ou la Turquie. La Constitution donne au président des compétences certes étendues mais limitées par l'existence de forts contre-pouvoirs tant au Congrès qu'à la Cour suprême, sans oublier le fait que les États-Unis constituent un État fédéral. Et c'est même à cette réalité que Donald Trump, minoritaire en voix à l'échelle nationale, doit son élection. Or, les États fédérés, les villes, les comtés, disposent eux aussi de pouvoirs importants. Enfin, les médias américains jouissent d'une totale liberté et la très grande majorité d'entre eux est hostile au nouveau président. Alors la première conséquence de l'élection de Donald Trump sera par conséquent un affaiblissement de la position américaine dans le monde, à rebours des promesses de campagne du président élu. C'est probablement l'une des causes de la satisfaction manifestée dans plusieurs pays devant ce tournant.
Vous avez raison de le préciser parce qu'il ne faut pas se cacher que dans plusieurs capitales, on se réjouit de l'arrivée de Trump à Washington. Il y a une internationale souverainiste et protectionniste.
Et oui, beaucoup triomphent. Et au premier rang, Vladimir Poutine, qui a contribué à cette victoire dans des proportions que l'avenir révélera peut-être. Mais d'autres aussi, comme Viktor Orban à Budapest ou Jaroslav Kaczynski à Varsovie, qui peuvent, à juste titre, se considérer comme des précurseurs du trumpisme. Alors, accablant ce week-end, se sont retrouvés Marine Le Pen, Frauke Petri, la dirigeante de l'Alternative für Deutschland, et Geert Wilders, le leader du Parti pour la Liberté néerlandais. Ces trois formations représentent, dans leurs pays respectifs, 25, 15 et 27% des intentions de vote. Elles ont toutes raison de voir dans la victoire improbable de Donald Trump, succédant à celle du Brexit en Angleterre, un puissant encouragement. Or, la frustration des classes populaires en Europe est au moins aussi profonde qu'en Amérique. Comme là-bas, les élites, considérées comme responsables de la crise financière de 2008, sont sur la sellette. Alors, il y a un texte du philosophe Richard Rorty qui tourne de manière virale sur les sites anglo-saxons depuis quelques jours. Considéré comme prophétique, il est tiré d'un essai paru en 1998 intitulé « Achieving Our Country ». Et voici ce qu'on y lisait dans ce livre. Je vous cite en entier. « Les adhérents des syndicats comme les ouvriers non organisés et non qualifiés réaliseront tôt ou tard que leur gouvernement n'essaie même pas d'empêcher leurs salaires de fondre et leurs emplois d'être délocalisés. À la même époque, ils réaliseront que les cols blancs des banlieues résidentielles, eux-mêmes terrifiés à l'idée d'être dégraissés, ne vont pas se laisser taxer afin de fournir des aides sociales à d'autres qu'à eux-mêmes. Et à ce moment-là, quelque chose craquera. L'électorat périphérique décidera que le système a échoué et commencera à se chercher un homme fort pour qui voter. Quelqu'un qui leur assurera qu'une fois élus, les bureaucrates pleins de suffisance, les avocats tricheurs, les vendeurs d'obligations surpayés et les professeurs postmodernistes ne mèneront plus la danse. Et lorsque cet homme-là sera élu, personne ne peut prédire ce qui se produira. » Et ben voilà, Richard Rorty est décédé en 2007. Il n'aura pas assisté à la réalisation de sa prédiction, mais nous savons, nous, aujourd'hui, quel a les traits de Donald Trump.
Alors certains l'avaient vu venir d'une certaine manière. Merci beaucoup Brice Couturier. On retrouvera bien sûr toutes vos chroniques comme chaque jour à 11h53 sur France Culture dans Culture Monde. Merci beaucoup Brice et à demain. Et dans quelques courts instants sur France Culture, on retrouve Olivia Gesbert et la Grande Table.